Allez, on va étudier l'Épître aux Galates. Je ne sais pas si vous avez déjà lu une fois dans votre vie l'Épître aux Galates. Ben, ça sera l'occasion de l'étudier pendant quelques semaines. L'Épître extrêmement riche. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 1. On va le lire en entier. Donc Galates, chapitre 1. Voilà, tout le monde a trouvé. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vont dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit anathème. Hein. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Pour ceux qui connaissent un peu l'Épître aux Galates, c'est une défense entre le salut et la loi. Et Paul va s'évertuer à défendre cette grâce, ce salut par grâce et non pas par les œuvres comme les judaïsants veulent le faire entendre à ces chrétiens qui sont là. Et va défendre cette doctrine, et on va voir au fur et à mesure les arguments qu'il va présenter. Et peut-être pour nous-mêmes, ça peut nous aider à apprendre comment défendre. Alors, on parlait de témoignage tout à l'heure. Souvent, on n'ose pas témoigner parce qu'on ne sait pas quoi dire. Ou alors, on a peur que quelqu'un va vous dire quelque chose. Et qu'est-ce que je vais lui rétorquer, hein, parce qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment, des fois, les arguments. Et on va en apprendre pas mal dans cette épître de Paul. Aujourd'hui, l'évangile, enfin le vrai évangile, je me pose la question s'il existe encore, à peu près, on va dire. Mais beaucoup abandonnent, beaucoup trafiquent hein, sur Internet. On arrange l'évangile pour qu'il plaise à tout le monde, au point de le diluer à un... qu'on ne parle presque plus de péché aujourd'hui. Vous pouvez être chrétien, mais surtout ne demandez pas pardon pour vos péchés. Ça, ce n'est pas du tout la Bible, on est bien d'accord. Alors Paul nous apprend justement qu'il y a un seul vrai évangile et il ne faut pas le détourner, loin de là. Parce qu'il faut le défendre, parce que c'est le seul qui va conduire à la grâce. Aujourd'hui, ces évangiles biaisés ne conduisent pas à la grâce. Et beaucoup de gens croient être sauvés, mais sont trompés tout simplement par des faux docteurs ou par des gens qui cherchent de l'argent. Mais l'Épître aux Galates va nous parler justement de cette grâce. Pour introduire un peu, alors pour parler de l'auteur, je pense que vous connaissez Paul, mais il est intéressant qu'il dit qu'il est apôtre non de la part des hommes. Hein, il ne se met pas en avant quelque part, il n'y a pas d'orgueil chez lui, parce qu'aujourd'hui, il y en a des apôtres sur Internet. Hein. Je suis apôtre de Christ. Il y a encore des apôtres aujourd'hui ? Il semblerait que non, puisque la définition, c'est d'avoir vu Jésus. Hein. Donc, à moins que vous ayez 2000 ans, ça peut arriver, mais je ne pense pas qu'il y ait des apôtres encore aujourd'hui. Mais lui était réellement un apôtre et ne se mettait pas en avant à cause de ce titre-là. Son apostolat ne vient pas de lui, il vient de Jésus-Christ, et il précise celui qui est ressuscité des morts, ce n'est pas n'importe qui, ça donne du poids quelque part à son apostolat. Hein, Et donc aujourd'hui, tous ceux qui se déclarent apôtres, évidemment, c'est pas Jésus-Christ qui les envoie. Les destinataires de cette lettre, c'est l'église de Galate, hein, c'est en Asie Mineure, vous regarderez sur une carte, a été fondée par Paul à un moment pendant ses voyages. Les Galates étaient connus pour être des gens pas tout à fait sympas, mais plutôt impétueux, versatiles. Ils changeaient d'opinion un peu quand ils voulaient. Ils étaient curieux et ils aimaient bien la nouveauté. Un peu comme aujourd'hui. Hein, on aime bien la nouveauté. On veut quelque chose de plus moderne dans l'Église. Mais des fois, c'est au prix de la doctrine ou de plein de choses. Et Paul fait ses salutations. Hein, il glorifie Dieu dans ses salutations. C'est un peu long au départ, mais vous voyez comment on pourrait se saluer des fois. On dit bonjour le dimanche matin. C'est triste, hein, on pourrait faire, je sais pas, peut-être reprendre ce qu'il a dit, mais glorifier Dieu dans cette salutation, pour le salut que Christ nous a donné, pour le pardon des péchés, c'est pas mal quand même déjà, non ? Ouais, vous n'êtes pas réveillé ce matin. Hein. Pour nous arracher du présent siècle mauvais, ce qui n'est pas mal non plus, et pour nous permettre d'être sauvés. Et Paul rappelle ici aussi l'œuvre de grâce de Jésus-Christ, qui, en fait, il le fait exprès, parce qu'après, il va en parler durant le reste de son épître. L'idée là, c'est d'apprendre à défendre l'évangile, à défendre cette grâce. Première chose qu'on peut voir, c'est que, et il fait un constat, Paul, il dit que certains se détournent du vrai évangile. Est-ce possible ? Ben déjà, à l'époque, ça existait. Il fait ce constat certainement avec beaucoup de tristesse. Hein. Le mot « détourner » en grec, ça veut dire être transporté, changé. On comprend bien qu'on est transporté par peut-être quelque chose de nouveau qui me plaît plus que l'évangile peut-être et qui va me changer. Et tout ça, c'est apporté par des faux docteurs qui existaient à l'époque et surtout les judaïsants, hein, ceux qui voulaient revenir un peu à la loi ou mélanger l'Église avec la loi. Mais ça montre que ces Galates n'avaient pas de conviction. Parce que si quelqu'un vient vous dire autre chose que l'évangile et que vous dites « Ah bah oui, ah, c'est sympa !» En fait, vous suivez bêtement ce qu'on vous dit et puis vous gobez, comme on dit. Généralement. Et on ne prend plus trop le temps des fois de réfléchir à ce qui a été dit. J'espère qu'après le culte, vous allez vite revoir Galates et aller voir ce que je vous ai dit est vrai. Vous allez tous manger, oui. Mais des fois, il faudrait le faire. Il faudrait le faire parce qu'on ne sait jamais. Comme j'ai dit un jour, je vais vous faire exprès une hérésie pour voir si vous faites attention. Quoi. Non, je ne le ferai pas. Enfin, on verra. Mais ça démontre qu'ils n'avaient pas beaucoup de conviction. Et quand on n'a pas de conviction, forcément, on n'a pas de connaissance peut-être de la parole de Dieu et n'importe qui peut venir et tout bousculé du jour au lendemain. Ils abandonnaient le véritable évangile, et peut-être aujourd'hui on pourrait l'appliquer à cette église qui veut vivre comme le monde, de plus en plus. On veut imiter le monde dans la stratégie, dans la musique, dans tout ce que le monde fait, parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on va toucher les gens, ou les jeunes peut-être surtout, mais quand ils arrivent dans l'église, les jeunes, on ne fait plus la même chose que dans l'évangélisation, dans les concerts, ou tout le machin. D'un coup, le jeune, il se dit mais on m'a trompé quelque part. Autant présenter l'évangile qui sauve réellement, plutôt qu'un morceau de musique, j'aime la musique, hein, je suis musicien moi-même, mais vaut mieux présenter l'évangile tel qu'il est clairement dit dans la Bible pour que quelqu'un se convertisse. Après, on fera de la musique. Mais l'important pour moi, c'est qu'il soit peut-être sauvé. C'est refuser aussi parfois la saine doctrine. Dans 2 Timothée 4:3, il dit « Car il viendra un temps, et on y est, je crois, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Vous aimez la doctrine ? La théologie proprement dite, angélologie, sotériologie. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce matin, hein ? C'est de la doctrine, mais après, le témoignage peut être aussi une forme de doctrine. Hein. Et donc, ils n'aimeront pas cette saine doctrine, et Paul continue, il dit « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. L'évangile vous rend riche, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Forcément que ça fait plaisir. L'évangile va vous guérir. Ben, c'est pas vrai. Si Dieu veut vous guérir, il le fera, il n'y a aucun problème. S'il veut vous rendre riche, je suis content pour vous, pensez un peu à moi. Mais la Bible ne dit pas ça. Mais si moi j'annonçais ça, il y aurait beaucoup plus de monde ce matin. Si pour se convertir, il fallait juste dire « je crois en Jésus-Christ », il y aurait plein de gens aujourd'hui. Mais il faut se repentir, il faut accepter ses péchés. Dieu ne rend pas forcément riche, il prend soin de nous, ça c'est déjà pas mal. Il nous promet le vêtement, la nourriture, pas plus. Ouais, pas de BMW, désolé pour vous. Mais oui, mais ça, c'est ce que dit vraiment la parole de Dieu. Et ben, les gens cherchent ce qui leur plaise, tout simplement. Paul fait un constat à l'égard de ceux qui créent le trouble. Hein. C'est donc ces judaïsants qui essaient de rentrer dans l'Église et qui vont pousser tout simplement les chrétiens à se remettre sous la loi de Moïse, quelque part. Ils viennent troubler, renverser l'Évangile pour imposer leur propre loi, hein. Enfin la loi judaïsante. Hein. Et ils viennent tout simplement diviser les chrétiens. Alors, ils ne le font pas forcément « Bonjour, c'est moi le faux docteur, c'est moi qui veux vous tromper ». C'est beaucoup plus subtil. Ils sont très sympas, ces gens-là. Ils sont très agréables. Et tout doucement, ils s'initient et divisent l'Église. Aujourd'hui, il y a toujours des gens comme ça. Il y a des gens qui mélangent la Bible. Peut-être nous-mêmes, des fois, on mélange la Bible. Hein, avec peut-être beaucoup d'autres choses, comme avec le monde, comme on l'a dit, peut-être avec mes propres pensées. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Tu ne voleras point, moi j'ai pas envie de payer mes impôts. Oh les gars, on va biaiser la parole de Dieu. Bon, à la fin, il faudra quand même payer, hein. Ça sera devant Dieu. Mais bon. On peut mélanger cet évangile en la rangeant avec ce qu'on a envie. Si je vous posais la question, vous ne répondez pas, mais est-ce que vous avez lu toute la Bible déjà, une fois dans votre vie? Parce que si vous ne l'avez pas lu en entier, vous ne connaissez pas le vrai évangile dans sa totalité. Abdias, ça vous dit quelque chose? Zacharie, tous ces machins. C'est comme ça qu'on doit apprendre tout l'évangile. Il faut tout connaître, pas simplement une partie. Alors je vous encourage évidemment à lire la Bible en entier. C'est passionnant. Certains vont accepter une partie de l'évangile, mais vont refuser plus ou moins d'autres parties ou remettre en question est-ce que c'est de notre époque, etc. D'une certaine manière, ben, quand vous enlevez ou quand vous arrangez quelque chose dans la Bible, vous créez votre propre évangile. Éditez-le, hein, et marquez votre nom en dessous. Mais ce n'est pas le vrai évangile, je suis désolé de le dire. Et si je crée moi-même mon propre évangile, je commence à être en danger quelque part, parce que je vais adapter les doctrines, je vais adapter le salut, je vais adapter tout à ma sauce, tout simplement. Et si chacun dans cette église commence à adapter à sa sauce l'évangile, ça va donner quoi? Il n'y a plus d'église. Parce que chacun va se disputer après en disant « moi j'ai raison, moi j'ai pas raison », etc. Et puis il n'y aura plus personne. Heureusement, il n'y a qu'un seul évangile. Pour ça, il faut évidemment l'étudier. Et Paul rappelle, martèle justement, qu'il y a un seul évangile. Il n'y en a pas plusieurs, il dit. Hein. Il n'en existe qu'un seul, et c'est la parole de Dieu qui est le véritable évangile. Et Dieu, vous savez, ne change pas son message que de temps en temps, il se dit « tiens, on va penser à, je ne sais pas, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les transformations qu'on fait dans les doctrines, Dieu n'a pas changé. C'est toujours la même chose depuis qu'il a inspiré les auteurs et rien n'a changé depuis. Il est immuable et sa parole est immuable et ne change pas. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, si on biaise, si on arrange cette parole, ben on n'arrivera plus à apporter ce salut aux gens. Le vrai salut qui sauve, la repentance, l'acceptation du Sauveur et ensuite de naître de nouveau. Poser la question dans la rue, c'est quoi naître de nouveau? Vous regardez, attendez, je vais appeler la police parce que vous êtes bizarre. Hein? Et peut-être même dans les églises évangéliques, ça peut exister, hélas. Hein? Mais tant qu'on a plein de sentiments quand on sort du culte, on est content. On a fait plein de sentiments. Mais le sentiment ne sauve pas. Le salut, ce n'est pas un sentiment. Enfin, la repentance, oui, c'est un sacré sentiment normalement dans notre vie et c'est un moment crucial. Mais le salut en lui-même, c'est plutôt juridique, on va dire. Mais j'accepte le Seigneur. Après, évidemment, le sentiment, parce qu'on aime le Seigneur. Vous aimez le Seigneur? Un peu? Moyennement, je vois. Hein. Paul dit, il y a un évangile unique, achevé, parfait, suffisant. Si vous avez des prophéties aujourd'hui, il faudrait les rajouter, en fait, à la Bible après Apocalypse. Mais évidemment, le Seigneur nous a dit que c'est clôturé, donc c'est que c'est des fausses prophéties. Il y a un seul. Et il dit, même si un ange annonçait un autre évangile... Si un jour vous êtes dans votre chambre, vous priez, que vous avez un ange qui vous apparaît, sortez vite. Hein. Il y a Gabriel qui a apparu il y a plus de 700 ans, enfin 700 ans après que l'évangile ait été donné à Mahomet. Hein. Et c'est un ange qui lui a transmis le Coran. Je ne sais pas si vous saviez. 700 ans avant, Dieu avait déjà prévu la chose quelque part. Hein, en disant, faites attention, si vous voyez un ange qui vous annonce un autre évangile, ben qu'il soit anathème, maudit. Vous imaginez comme c'est Dieu qui dit, si quelqu'un annonce quelque chose de différent, il sera maudit. Dans Corinthiens 16, 22, il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, le Seigneur vient. Dieu aime sa parole et il maudit celui qui la transforme. C'est terrible quand on y réfléchit. Parce qu'on se dit, bon, on peut faire un peu notre sauce comme on a envie, mais Dieu ne veut pas qu'on touche à sa parole. C'est dire ce qu'il pense de cela et peut-être notre façon de concevoir ou d'annoncer des fois l'évangile. Peut-être je le fais à la légère en me disant c'est pas grave si je me trompe, etc. Mais hein, Dieu, il n'aime pas ça. Alors, il est plein de compassion aussi pour nous qui essayons de faire ce qu'on peut. Mais bon, pour les musulmans, là, je pense qu'il sera un peu moins compatissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas et qu'il ne veut pas les appeler parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent aussi aujourd'hui. Et c'est formidable quand ça arrive. Peut-être pour nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut ajouter, retrancher quelque chose à l'évangile? Vous allez dire, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hein, vous n'avez jamais arraché une page de votre Bible parce que ça ne vous plaisait pas. Ben, j'espère. Ou alors, si, ce que nous faisons parfois, des fois, on commence à lire, puis là, on arrive dans Abdias et... Édom, c'est quoi Édom, hein. Puis ça ne nous plaît pas, ça ne nous intéresse pas, puis on passe à un autre livre. Alors le psaume 23, ça je vais le relire 15 000 fois dans ma vie, certainement, parce que je le connais, je suis à l'aise, donc forcément c'est mieux. Mais c'est dommage, parce qu'on se prive de l'ensemble de la parole de Dieu. Je peux biaiser cette parole retranchée, ajoutée peut-être quand je ne la connais pas suffisamment. Et beaucoup de gens deviennent légalistes parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment ce qu'il faut mettre un sapin à Noël ou il ne faut pas mettre un sapin. Qu'est-ce que Dieu pense? Il ne faut pas en mettre. Et si vous en mettez, vous êtes méchant. Seulement, je n'ai jamais lu dans la Bible qu'il y ait un sapin ou pas. Fait ce qu'on a envie, ça c'est à l'Église de décider. Mais on peut tomber dans une forme de légalisme, de tradition aussi. On fait les choses parce qu'on les a fait, parce que l'ancien pasteur les a fait, ou parce que l'Église est comme ça depuis toujours, mais à un moment on peut se poser la question, mais c'est bien dans la Bible ça? C'est bien écrit, hein? Eh oui, façon de s'habiller, façon de faire des fois. Parce que moi on m'a souvent fait des réflexions, mais j'ai dit, mais trouvez-moi un verset, et puis on en parle. Eh oui, alors pour celui qui connaît, il va le trouver. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et là, on peut dériver, on rajoute, on retranche à la parole de Dieu. Je peux aussi, en désobéissant à la parole de Dieu, ou la remettant tout le temps en cause, hein, est-ce que le Seigneur veut vraiment que je grandisse dans ma foi? Oui, on va tous dire oui. Lentement, oui. Et vous ne bronchez pas. Ah ben, vous voyez, vous êtes en train de... Hein? Non, le Seigneur veut nous faire grandir vite, mais c'est nous qui freinons. Tout le temps. Ah, j'ai pas envie de changer. C'est pas facile, le changement, ça je le reconnais. Mais c'est nous qui freinons. Lui, il veut qu'on croisse dans la connaissance de sa parole. Il veut qu'on devienne des chrétiens matures, pas des chrétiens qui mangent du lait. C'est bon, le lait, mais à un moment, hein, la nourriture solide, comme il est dit dans Hébreux. Le Seigneur veut nous faire avancer. Mais si je freine, si je remets en question cette croissance, quelque part, je suis en train de biaiser aussi la parole de Dieu. J'ajoute, je retranche. Sachant que ajouter, retrancher, quelque part, c'est changer et réécrire la parole de Dieu. Ah oui. Si je dis que je veux grandir tranquillement, ne me poussez pas, je change ce que le Seigneur demande pour moi, tout simplement. Eh oui, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Alors, le Seigneur agit avec chacun d'une autre manière, on a chacun notre rythme, on va dire, mais des fois, le rythme, quand même, la plupart, c'est mollo, hein. Pianissimo, comme on dit, tranquillement. Et le Seigneur voudrait qu'on aille vraiment plus loin, mais peut-être la prochaine fois, quand on veut se rebeller contre Dieu, quand on ne veut pas changer, peut-être on peut penser qu'on est en train de remettre en question tout simplement la parole de Dieu. Donc Paul défend cet unique évangile que le Seigneur a offert et qui est le seul pour lui, évidemment, il va le défendre au fur et à mesure, qui peut mener à la grâce. Deuxième chose, c'est il va parler, parce que là on est un peu dans l'introduction de cet épître, il va parler comment lui a reçu cet évangile de la part de Dieu. Il l'a eu par révélation. Et il ne cherche pas la faveur des hommes, lui il s'en fiche que les hommes l'aiment ou pas, et d'ailleurs Corinthiens ou autres n'aimaient pas Paul, ou même remettaient en question son apostolat, alors que lui avait créé leurs églises, c'est quand même terrible. Hein. Mais bon, il ne cherche pas la faveur des hommes, il ne cherche aucune gloire, parce que lui, il sait que ça ne vient pas de lui, il sait que ça vient uniquement de Dieu. Et quelque part, quand ça vient de Dieu, vous ne pouvez pas vous glorifier de cela. C'est tout simple. Son évangile a une origine divine, hein, et Paul l'a reçu vraiment par révélation de la part de Dieu, directement, de Jésus-Christ. Hein. Contrairement aux disciples qui ont passé 3 ans avec Jésus et qui ont été enseignés oralement. Le Seigneur leur a transmis la bonne nouvelle, mais tous les jours, ils étaient un petit peu enseignés et ils ont cultivé cet enseignement au fur et à mesure. Et c'est Dieu, non seulement s'est révélé par la voie orale par Jésus-Christ, mais en même temps, il s'est révélé aussi de l'autre côté par révélation au travers de l'apôtre Paul. Et ce que Paul a reçu, c'est quelque chose d'unique quand même. Vous allez voir pourquoi. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de révélation, hein. Je le dis comme ça, si je déçois quelques-uns, bon, tant pis, mais il n'y a plus de révélation, la Bible est close, on n'ajoute plus rien, comme il est demandé. Le Seigneur peut nous parler dans notre cœur d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas une révélation comme la doctrine que l'apôtre Paul a reçue. Il dit qu'il ne l'a pas reçue de l'homme, il ne l'a pas conçue lui-même, toute son inspiration, toutes ses épîtres viennent directement de Jésus-Christ. Des fois on dit que nous sommes inspirés. Bon, je suis un peu taquin sur les mots, mais plus personne n'est inspiré aujourd'hui. Oui, on peut dire illuminé, pas dans le sens négatif, mais le Seigneur peut nous montrer des fois des choses dans notre vie, mais plus personne n'est inspiré. Parce que si vous êtes inspiré, il faudra que je rajoute à ma Bible ce que vous avez dit. Il y en a qui le font aujourd'hui, hélas. Mais il n'y a plus d'inspiration dans cette définition-là. Il n'a pas reçu de l'homme, il a reçu de Dieu directement. L'inspiration, par contre, des judaïsants, je mets entre guillemets, hein, vient plutôt de leur orgueil plutôt du péché, de leur intérêt, parce que souvent, il y a leur petite gloriole. Aujourd'hui, c'est un peu l'argent qui intéresse les faux docteurs. Hein, mais eux le reçoivent, j'ai envie de dire, presque du diable, quelque part. Hein, tandis que lui, il l'avait reçu vraiment de Dieu. Son évangile n'a pas été altéré. Il vient vraiment directement de Dieu. Et il a autant d'autorité que celui que les disciples avaient reçu de la part de Jésus-Christ. Et vous savez, si on n'avait pas eu l'apôtre Paul, quand même, vous imaginez tout ce qu'il faudrait enlever de la Bible ? C'est impressionnant quand même, le nombre d'épîtres qu'on n'aurait pas, de doctrine vraiment pure, on pourrait dire, par rapport à la grâce et un tas d'autres choses. On serait triste. Bon, pas vous, moi, oui. Non. Parce que si je n'avais pas Galates, si je n'avais pas Corinthiens, si je n'avais pas Philippiens, tout ça.
Amen.
Voilà, un vrai théologien qui est là. Bon, c'est en les lisant que vous allez comprendre pourquoi c'est tellement important et encourageant aussi. Et Paul va confronter là deux sortes d'évangiles. Hein. L'évangile des hommes, d'abord, c'est l'évangile de la religion. Souvent, quand je dis que je n'ai pas de religion, on me regarde un peu avec des yeux écarquillés. Moi, j'ai la foi, moi, je n'ai pas de religion. La religion, c'est les hommes. Ils utilisent la Bible, mais ils en font un peu ce qu'ils ont envie. Cet évangile des hommes, c'est le légalisme, comme on l'a dit, le libéralisme aujourd'hui. Jésus n'a pas vraiment guéri. Ils n'ont pas vraiment traversé la mer Rouge. Hein. On remet tout en question, les miracles, mais ça s'explique par la séance. Enfin, on remet tout en question et finalement, on dilue complètement le message. Et c'est souvent très charnel, tout ça. C'est aussi l'évangile de la facilité, comme on a dit. On a des grands concerts aujourd'hui. On dit « Confessez Jésus », vous dites « Jésus, vous êtes sauvé ». Et les gens repartent, ils se croient sauvés. Et 15 jours après, première épreuve qui est arrivée. Wow. Mais c'était pas sauvé, moi. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité, tout simplement. Mais souvent, on confesse Jésus et on oublie que, comme on a vu le baptême la semaine dernière, on avait trois baptêmes, on s'engage. Il y a des gens qui sont mariés ici. Quand vous étiez devant monsieur le maire et que vous prononciez votre engagement, vous n'êtes pas dit dans la tête, deux semaines après, je te quitte. Hein. On s'est engagé. Eh oui. Et l'engagement, ça ne parle plus trop aujourd'hui, mais ça veut dire dans les bons et les mauvais moments dans les couples. On dit souvent comme ça, hein. La formule est facile à dire, plus difficile à vivre. Mais quand on s'engage avec Jésus-Christ, on s'engage de la même manière. Ce n'est pas du sentimentalisme. Je prends conscience de ce que je suis en train de faire. On baptisait très vite, on parlait des chrétiens dans l'église primitive au départ. Mais quand quelqu'un se faisait baptiser, il savait qu'il risquait d'aller au lion 10 minutes après, se faire bouffer. Vous avez envie de vous faire manger par les lions ? Si vous êtes prêt à le faire, c'est que vous vous engagez. Heureusement, il n'y a plus de lions aujourd'hui. Hein. On n'a plus que des chats. Ça se maîtrise. Mais s'il y a la persécution qui venait, vous êtes prêt à mourir pour Jésus-Christ ? Est-ce qu'on est vraiment engagé pour le Seigneur ? C'est facile de confesser Jésus. S'engager, ça c'est différent. Ça coûte. Puis il y a l'évangile mondain, hein, puisqu'on imite de plus en plus le monde, on l'a dit, dans tous les domaines, de stratégie, de musique, etc. On pense que ça va marcher mieux. Oui, on aura plus de monde. C'est bien d'avoir beaucoup de monde. C'est bien pour mon orgueil. Mais si dans tout ce monde-là, mon seul intérêt, c'est d'avoir beaucoup de monde et pas de sauver, ça ne sert à rien. Moi, je préfère avoir moins de monde et avoir des gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui s'engagent avec le Seigneur. Et s'il plaît au Seigneur de remplir, il remplira. Mais ça ne sert à rien de faire... C'est de la pub ou c'est... Je sais pas, c'est vain pour moi. Et pour Dieu aussi, je pense. Par contre, en contraste, le véritable évangile, lui, il choque. Aller dans on était une fois à Bordeaux à faire avec l'Institut biblique, des sondages. Et on demandait aux gens, au fur et à mesure, plusieurs questions. On leur demandait, est-ce que vous avez tué ? Bon, non, je n'ai tué. Vous avez volé ? Bon, ils disaient non. Ils pensaient peut-être à des affaires derrière. Est-ce que vous avez menti ? Est-ce que vous avez été adultère ? Et là, d'un coup, ils partaient. Parce que l'évangile choque. Ça touche la conscience. C'est complètement différent de ce « confesse Jésus et puis tu seras sauvé ». Quand j'écoute vraiment l'évangile, que je l'accepte, ça bouleverse le lecteur normalement. Ça bouleverse la vie. Purée, il faut que je me remette en question. J'ai péché, je ne savais pas que je faisais ça. On ne me l'avait jamais dit. Enfin, j'ai une conscience, on sait quand même quand on fait du bien ou du mal, hein, on le sait. Mais j'ai péché devant Dieu, ça a conduit Jésus à la croix. Alors que moi, je devais y aller. Vous aimeriez mourir, crucifié, là ? Une petite expérience tout à l'heure ? Non ? Mais Jésus l'a fait pour vous, pour moi, parce qu'il m'aimait. C'est ça, le vrai évangile. Alors, quand quelqu'un est dans cette situation, il a besoin d'un sauveur, et il va appeler Jésus-Christ, justement, qui a donné sa vie pour lui. Et ça, ça produit la vraie foi. Ça va produire une nouvelle vie, et ça va produire, normalement, l'engagement parce que la Bible, l'Évangile parle du péché. Jésus l'a dénoncé, pas pour dénoncer, parce qu'il veut simplement qu'on change, parce qu'il veut nous rappeler que péché, ça nous fait du mal. Lui, nous veut du bien. Quand vous mentez, hein, je disais aux jeunes hier, quand on ment, on s'est sorti d'une, peut-être d'une situation. Mais après, on va devoir mentir une deuxième fois, une troisième fois, et puis la culpabilité va rentrer. Et finalement, on n'est pas bien, jusqu'au moment où il va falloir avouer, peut-être. Mais si je ne mens pas, parce que j'obéis au Seigneur, ben, je suis bien. Ah oui, il y a des situations, ben oui, oui. Vaut mieux dire la vérité plutôt que de passer des heures et des heures à culpabiliser pour finalement revenir au départ. L'Évangile parle du péché, parle de la mort. Eh oui, on va mourir un jour, mais surtout de la mort spirituelle. L'Évangile parle de l'enfer. Beaucoup aujourd'hui essaient de dire que oui, mais vous savez, Dieu aime tout le monde. Il ne va pas envoyer des gens en enfer. Eh bien si, la parole de Dieu le dit. Jésus a parlé plus de l'enfer que du paradis quand il était sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il veut prévenir les gens que ça existe et qu'il ne veut pas pour eux. Il a tout fait, en tout cas, pour que ça n'arrive pas. À nous de choisir. L'Évangile nous conduit à naître de nouveau. Il offre le Saint-Esprit. Hein, alors pas comme on entend aujourd'hui, mais le Saint-Esprit rentre dans une vie et il va nous consacrer, il va essayer de commencer à nous changer, à nous transformer. Et des fois, nous, on dit « Non, j'ai pas envie », parce qu'il y a ce combat entre la chair et le Saint-Esprit, mais celui qui se laisse faire, ben, tout doucement, va changer, progresser dans sa vie chrétienne. Et surtout, quand on pense le prix qui a été payé par Jésus-Christ pour cet évangile, pour que nous l'annoncions, et que les chrétiens aujourd'hui ont si peu d'intérêt pour cet évangile, je trouve ça vraiment un peu triste, quelque part. Puissions-nous aimer, apprendre, avant de transmettre, parce que je ne veux pas transmettre sans apprendre cet évangile, cet unique évangile, cette parole de Dieu. Et vous savez, quand vous témoignez, des fois on ne sait pas quoi dire, hein, parce qu'on parle des témoignages, ben, des fois moi je fais lire la Bible tout simplement. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui convainc normalement, hein, c'est elle qui mène à la foi. Donc si vous êtes des grands timides, mémorisez 2-3 versets quelque part sur vos smartphones, hein, il y a maintenant plein d'applications, tout est moderne aujourd'hui, on peut aller très vite. Et puis ben, faites lire tout simplement, si vous n'avez pas quoi dire. Jean 3,16, Romains 3,23, si ça vous parle. Et comme ça, vous évangéliserez aussi. L'idéal, c'est quand même de prendre le temps d'apprendre à lire la parole, à connaître cet évangile et pouvoir à peu près le défendre. Ça serait quand même bien. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit comment je peux être sauvé, qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous n'êtes pas pressé, hein ? J'ai pas tout entendu parce que vous parlez tous en même temps, mais j'espère que c'était bon. Mais ça me fait réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là ? Alors moi, en tant que pasteur, souvent j'aimerais avoir les bons mots, me dire qu'est-ce que je peux dire ? La Bible nous dit, hein, si vous n'avez pas quoi dire, laissez faire le Saint-Esprit. Il va vous aider. Mais on aimerait des fois avoir les mots qui percutent. Hein. Je connaissais un témoignage, il y a un collègue qui avait parlé à un autre collègue, il disait, si tu n'es pas sauvé, tu vas mourir éternellement. Dans la nuit, le gars, il s'est converti, il a eu peur. Il y en a qui ont lu Nombre, qui sont convertis. Il a déjà lu Nombre. Il faudrait qu'il m'explique comment il a fait ça. Il disait Apocalypse, il y en a qui se convertissent avec ça. Bon, Dieu a mille et une manières d'amener quelqu'un au salut, mais il se sert aussi des fois de nous. Et qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là, si je n'ai... Comment dire, s'il n'y a pas goût à cet évangile, si je n'ai pas appris quelque chose de cet évangile pour pouvoir le transmettre. Une troisième chose, c'est Paul qui va parler maintenant de comment il a été appelé à annoncer l'évangile. On ne sera jamais un Paul, hein, ça on est bien d'accord, à moins que vous ayez envie d'être comme lui, mais bon, je souhaite bien du courage, parce qu'il a bien souffert. Mais il y a des gens encore aujourd'hui qui sont prêts à se sacrifier pour annoncer l'évangile en Corée du Nord, par exemple. Vous avez envie d'aller en Corée du Nord ? Bonjour, Jésus vous aime. Oh tiens, je suis en prison. Bizarre. Mais ils continuent à évangéliser même quand ils sont en prison, hein, ou mis à mort. Jésus a appelé Paul au salut. Hein. Et c'est intéressant que Paul évoque ce passé qu'il avait. Il dit qu'il était un juif, quelqu'un qui était extrêmement zélé, un pharisien très cultivé. C'était le top, on va dire, de la religion judaïque à l'époque. Hein. Et en même temps, il était persécuteur des chrétiens, parce que pour lui, il était convaincu que ce qu'il faisait, c'était la loi. Et c'est comme ça. Donc c'était pas avec culpabilité, il le faisait, parce qu'il était sûr que c'était ça. Quand même, il faut imaginer que sur le chemin de Damas, quand il a passé 3 jours aveugle à réfléchir à tout ça, vous imaginez la lobotomie, entre guillemets, qui a dû se passer dans sa tête. Hein, c'est comme si on vous demandait demain de devenir musulman. Qu'est-ce qui se passerait dans votre tête ? C'est compliqué. Hein. Mais le Seigneur a certainement beaucoup travaillé ce Saul à ce moment-là. Il prouve aussi que Dieu appelle tous les hommes quelque part, parce que si vous aviez connu Saul à l'époque, qui était là à côté de, enfin, qui approuvait le meurtre d'Étienne, vous auriez dit quoi de lui ? Oh là là ! Et puis tout le monde avait peur de lui d'ailleurs. Vous allez, mais jamais, jamais, il va se convertir ce gars. Jamais on peut imaginer qu'il sera dans l'Église. Eh ben si. Ben, ouais. Aujourd'hui, il y a des persécuteurs peut-être. Bon, on les aime pas, mais qui sait si nous prions pour eux, ils peuvent être transformés. Le Seigneur le démontre, et Paul justement le démontre par sa vie. Votre passé, c'est une chose, mais Dieu peut transformer ce passé. Et d'où vous venez ? Ça, c'est formidable quand même. Hein, c'est pas ceux qui sont gentils, tout mignons, qui vont se convertir. Généralement, ces conversions sont très, très light. Mais Paul, enfin Saul, au départ, quand il s'est rendu compte de son erreur, ça a dû être sacrément difficile à réaliser, à vivre. Il s'est repenti de son péché, et là, je pense qu'il y avait une vraie repentance à ce moment-là. Et ça manque des fois chez les chrétiens, cette vraie repentance de départ, de comprendre qu'on a vraiment péché. Et il dit, Jésus va l'appeler par sa grâce. Cette grâce, il va dire dans Éphésiens, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète, quelque chose par lequel on y va par les œuvres. C'est un cadeau. Les gens n'aiment pas les cadeaux aujourd'hui, c'est curieux. Ah oui, présenter l'évangile comme un cadeau, et les gens sont presque prêts à payer la Bible parce que ça aura de la valeur quelque part. Non, c'est un cadeau que Dieu donne à tous les hommes. Et il dit qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. Lui, il a grandi, il a fait son œuvre, son travail, et Dieu savait déjà ce qu'il allait faire de lui. C'est formidable quand on y réfléchit. Dieu sait ce qu'il va faire de lui, Dieu sait ce qu'il va faire de chacun d'entre nous aussi. Et puis il va un peu parcourir ce qu'il a fait après la conversion. Hein. D'abord, il a fait un voyage en Arabie. On croit souvent qu'il est allé annoncer l'évangile à Jérusalem tout de suite. Non, il est allé d'abord en Arabie pendant 3 ans. Et c'est là où le Seigneur a travaillé certainement son cœur et cette révélation qui s'est donnée. Il n'ira pas vers les disciples à Jérusalem pour apprendre l'évangile, parce qu'on aurait pu dire, ben là, c'est pas une révélation. Non, il va être complètement seul au départ et va tout apprendre de Jésus-Christ. Et cette foi va mûrir, va tout doucement grandir, les doctrines vont se mettre en place, et tout ce qu'il va recevoir va venir de Dieu. Ça ne vient pas des apôtres, ça vient directement de Dieu. Et c'est là où c'est formidable, c'est que quand ils vont se rencontrer à un moment, l'un a eu par révélation, les autres l'ont eu par voix orale, et les deux étaient d'accord. C'est formidable. Deux témoignages, en fait. Et ça, c'est formidable qu'il y ait deux témoignages là différents, la manière est différente, pour dire le vrai et unique évangile. Moi, je trouve ça extraordinaire et miraculeux, surtout. C'est un miracle, quand même, qu'on y pense. Et ça donne d'autant plus de crédibilité à la Bible et à l'évangile. Puis, dans un deuxième temps, il va partir à Jérusalem pour rencontrer Céphas, hein, Pierre et Jacques. Dans Actes 9, 26 à 29, il est dit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. » Donc il va rencontrer 2 disciples au bout de 3 ans à Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu que Barnabas... Hein, viennent avec, parce que s'il était venu tout seul, ils avaient peur, à mon avis. Et Barnabas, c'est quand même, avait aussi un sacré travail là, en tant que disciple. Il va l'accompagner et il va pouvoir présenter à ses 2 apôtres. Et il va rester seulement 15 jours là-bas avec eux, hein, d'après ce que nous dit les Actes, si je me souviens bien. En 15 jours, il n'a pas pu apprendre de ses 2 disciples tout ce qu'il va mettre dans ses épîtres. C'est impossible. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas par révélation. Ils ont communiqué, mais 15 jours... Prenez déjà 15 jours pour essayer de lire simplement toutes les épîtres, essayer de comprendre, je ne sais pas. Donc on ne peut pas trouver là un argument en disant qu'il a tout reçu de Céphas et de Jacques. Il l'a bien reçu par révélation. Puis il va partir, il va se balader en Syrie, en Cilicie pendant 14 ans. Hein, il s'est beaucoup promené et il dit certainement parce que là-bas il était moins connu, donc les gens l'abordaient un peu plus facilement. Hein. C'est vrai que si vous êtes connu pour tuer tout le monde, ou surtout les chrétiens, ben, vous n'êtes pas très bien accueillis dans les maisons. Hein. Mais bon, mais le texte nous dit que cette vie qui a été changée glorifiait Jésus-Christ. Et quand on a un témoignage comme ça de quelqu'un qui persécutait Christ et qui s'est converti, qui maintenant parle de Jésus-Christ, on fait waouh quand même. Ce que Dieu peut faire dans une vie, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est le fruit du vrai évangile uniquement qui conduit à la grâce. Et il a été poussé justement parce qu'il a été sauvé à témoigner. J'étais content d'entendre ce que disait notre président tout à l'heure par rapport à ce témoignage. Il va découvrir le vrai évangile, il va être changé par cet évangile, mais il a envie d'en parler après. Aujourd'hui, on est sauvé, puis on reste à la maison, devant Internet, puis on n'en parle plus. Internet sur l'Église et tout ça. Maintenant, quand on est sauvé, c'est une bonne nouvelle. Quand vous avez une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous rentrez chez vous, vous faites la tronche, et vous n'en parlez à personne, c'est ça? Ben non, on va l'annoncer. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune chrétien, je parlais à tout le monde. Je disais peut-être des bêtises. Bon, pardon, c'est bien, mais l'envie de le dire. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Alors, 20 ans après, je sais, plus de 20 ans que je suis chrétien, est-ce qu'on a encore la même hargne? Ben, est-ce que vous êtes toujours sauvé ou pas? Il n'y a pas beaucoup qui sont certains, on dirait. Ben oui, et c'est toujours là votre joie, ou voilà, maintenant on est l'habitude, Seigneur, Jésus, la croix, machin, on a un peu ras-le-bol à force d'entendre la même chose, mais moi je suis toujours heureux d'être sauvé. Je pense pas tous les jours, parce qu'il faut bien travailler, il faut faire un tas de choses, mais il faudrait être heureux. Et parce qu'on est heureux d'être sauvé, on veut être reconnaissant, et quand on est reconnaissant, on a envie de témoigner, de partager, tout simplement, la grâce qui nous a été faite. Et notre appel à nous aujourd'hui, parce que, ok, là on parle de Paul, témoin, vrai évangile, mais est-ce que nous sommes pas aussi appelés à annoncer le vrai évangile aujourd'hui? C'est mitigé, Il faudrait que ce soit un oui franc, clair. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Dieu s'est plu à nous gracier. On aime le salut. Alors, on jubile. Mais après, il est dit qu'il faut le servir. Dans Éphésiens, il dit « on est sauvé par grâce », et quelques versets après, il dit « pour que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance ». Ah mince, sauvé, mais travailler, j'aime pas trop, j'aime bien être sauvé, mais travailler, servir, c'est pas vraiment évident. Vous savez, le service, souvent, peut-être certains se refrainent parce qu'ils se disent « ils sont pas assez parfaits ». Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église? Peut-être je suis pas parfait, j'ai pas des dons, en tout cas c'est pas évident. Peut-être je ne sais pas parler de l'évangile, je ne sais pas. Ça, par contre, on s'est passé des années comme ça, à se dire « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Parce que c'est facile. Mais prendre une fois le Seigneur au mot, et qui dit qu'il m'a donné un don, qu'il veut me qualifier, parce que c'est pas... Vous savez, toute chose s'apprend, c'est pas seulement... Ça ne tombe pas comme ça du coin du ciel. On apprend. Mais si, au lieu de m'excuser tout le temps, l'effort que je mets là-dedans, je le mettais dans le service. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, on va prier. Ouais, je peux pas. Je vais voir avec le conseil, je vais voir avec les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on prend le temps, toutes les semaines, à dire au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh oui, jamais. On pense à notre vie. On pense à beaucoup de choses, mais le Seigneur nous appelle à servir. Il veut pas des gens parfaits, il veut nous qualifier. Et ça doit nous motiver. Eh ben oui, on fera des bêtises au début, c'est pas grave. La fin du monde. Eh ben, on va apprendre, tout simplement. C'est génial. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai appris des choses, j'ai fait des bêtises, ben voilà. Puis je me suis occupé des enfants, puis après j'ai fait des présidences, et puis maintenant, le Seigneur ne sait plus me faire pasteur. Chouette. Mais voilà, on apprend au fur et à mesure. Et il ne faut pas avoir peur de commencer quelque chose, de vouloir servir, d'oser venir poser la question, de prier même avec moi, si vous voulez, il n'y a aucun problème, pour qu'on trouve sa place dans l'Église. Il ne veut pas une église de spectateurs, celle qu'on est en train de créer aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous fais un petit concert, je vous parle de Dieu, rentrez chez vous. Ce n'est pas l'église selon la définition. Il est dit, ce sont des pierres vivantes. Enlevez quelques pierres de votre appartement tout à l'heure, ou de votre maison. Qu'est-ce qui va arriver? Vous aurez des courants d'air, mais si vous en enlevez tellement, bah, votre maison va s'écrouler. Eh bien, s'il n'y a pas de pierre vivante, il n'a pas dit des pierres, il a dit des pierres vivantes, c'est-à-dire actives, chaudes, qui ont envie de faire quelque chose. Et si toutes ces pierres sont vivantes et se mettent à leur place dans cet édifice, alors l'Église va fonctionner, tout simplement. Mais ce n'est pas des spectateurs que le Seigneur veut. Il ne veut pas des gens qui s'assoient et qui repartent en disant « Ouais, t'es bien le culte, hein ?» Ou pas. Ça peut arriver aussi. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas acteur. Si je commence à participer, alors on peut pas tout faire dans le culte évidemment, mais il n'y a pas que le culte, il y a d'autres choses dans l'Église. Mais à partir du moment que je deviens acteur de cette Église, je me rends compte qu'elle est importante pour moi. Parce que forcément, je vais travailler pour elle, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle mûrisse, qu'elle croisse, etc. Mais parce que je deviens acteur. Mais si je ne suis pas acteur, je serai toujours en train de dire « Oh, ben, le pasteur, il ne fait rien, puis cette Église, elle est maussade, etc. » Ben oui. mais c'est peut-être ma faute, tout simplement, parce que c'est à moi de participer. J'aimerais avoir plus de musiciens, j'aimerais avoir plus de présidents, j'aimerais avoir plus de gens qui puissent faire des études bibliques, j'aimerais avoir... Ah, si vous avez tout ce que je voudrais avoir, on en parlera un autre jour. Mais les dons sont là. J'attends simplement qu'on se mette au travail, tout simplement. Chacun selon son temps. Que faisons-nous de cet appel? Parce que l'appel de l'évangile ou les appels ou les dons, c'est pas que les missionnaires ou les pasteurs ou peut-être certaines personnes qui sont dans l'église, c'est tous les chrétiens. Vous êtes chrétien?
Oui.
Dieu vous appelle. Je suis désolé de vous embêter. Hein. Il vous appelle, écoutez peut-être ce qu'il veut vous dire en lisant la Bible. Non, vous n'aurez pas de SMS, je vous rassure tout de suite. Lisez la Bible et peut-être en lisant la Bible, ben, mon Dieu, ça me parle. On parlait avec le pasteur ou avec quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais faire? Tous sont appelés à apprendre l'évangile, peut-être pas à devenir théologien, mais à apprendre l'évangile. Parce que si je veux le transmettre, comme on l'a dit, aux non-croyants, il faut que je connaisse au moins Jean 3,16. Au moins. Par cœur. Oh non, là tu vas trop loin, Emmanuel. Pourtant c'est le plus facile à apprendre. Mais après, qu'est-ce que je peux dire par rapport au péché dans la Bible? Où c'est écrit qu'il y a le péché? Où c'est écrit qu'il y a l'enfer? Où c'est écrit que si et ça? Parce que les questions, des fois... Des non-croyants, alors souvent on se dit, on va témoigner, ils vont dire non, mais il y a des non-croyants qui vont vous poser des questions, parce qu'ils sont en recherche, c'est ça le problème. Et si moi je ne peux pas répondre, ben, je loupe le coche. Je me souviens un témoignage d'un frère qui avait sa femme qui était à l'hôpital, et il y avait à côté de lui un berger, qui était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait exactement. Et puis il s'est dit ce jour-là, mais je suis bête, parce qu'il ne savait pas comment lui parler de Jésus. Ben, le berger, il s'est dit après, mais c'est un berger, on aurait pu parler du bon berger, tout simplement. Dieu permet des fois d'avoir des petites transitions comme ça qu'on peut faire par rapport à une personne. Et quand on prie et qu'on demande au Seigneur, il va nous aider dans ce domaine-là. Mais tous sont appelés à transmettre cet évangile aux non-croyants. La question, c'est savoir est-ce qu'on a un cœur pour les perdus. C'est ça. Moi, je suis sauvé. C'est réglé. Ma famille, bon, je prie un peu de temps en temporel. On verra bien. De toute façon, c'est désespéré dans ma tête. Hein, si vous m'aviez connu avant, c'était désespéré que je me convertisse. Hein. Et pourtant, Dieu l'a fait. Mais mes amis, est-ce que je prie pour eux? Mes collègues de travail, surtout ceux qui m'énervent, mon patron, est-ce que je prie pour lui? Est-ce que je lui ai annoncé l'évangile? Hein? J'avais un directeur à l'époque à qui j'annonçais tous les jours l'évangile parce que c'est lui qui me posait les questions pour se moquer de moi. Pas grave, mais je lui ai annoncé l'évangile. Il sait tout de l'évangile maintenant. Il sera devant Dieu un jour et il va dire ah ouais, c'est vrai, quelqu'un m'en avait parlé, je me moquais de lui, ben maintenant c'est trop tard. Voilà. Mais on peut... Si on a un cœur pour les perdus, on a envie de partager l'évangile. La question, c'est savoir est-ce qu'on s'en fiche ou pas. Il ne s'agit pas d'être traumatisé non plus, hein, on s'entend bien. On a un cœur, on voudrait tellement que nos familles, nos collègues, d'autres personnes se convertissent parce qu'on voudrait qu'ils connaissent ce que nous connaissons, cette fameuse grâce. Mais pour ça, il faut s'investir, je suis désolé. Il faut prendre du temps. On fait beaucoup d'activités. Alors, il faut travailler, ça, on est bien d'accord, parce que la Bible nous le dit, pour manger, il y a des loisirs peut-être, pourquoi pas. Mais des fois, ils ne sont pas utiles parce qu'on pourrait plutôt prendre du temps pour apprendre l'évangile, étudier la parole de Dieu, venir aux études bibliques, peut-être des études personnalisées parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin, parce que j'ai envie de transmettre la parole de Dieu. Mais on verra bien, hein, demain. Et puis demain. Ça fait déjà un mois qu'on est dans la nouvelle année. J'imagine qu'on avait tous des envies, là, de servir plus Dieu, etc. Et puis, je vois que l'Église... On n'est pas nombreux aujourd'hui. On est le double, normalement. Hein. Voilà, tout le monde était engagé au début, et puis là, on se laisse aller. C'est dommage. Mais il faut s'investir, il faut prendre du temps. Il y a des choses utiles et il y a des choses qui sont futiles. À nous de faire le ménage là-dedans. Qui je veux servir, tout simplement, ma chair ou le Seigneur. Dieu avait un plan pour Paul. Si Paul avait dit, je suis fatigué, il y a une émission télé ce soir, écoutez, j'ai pas envie d'apprendre plus par révélation, hein, Seigneur, laisse-moi, m'embête pas avec ça. Ouais, rien du tout. Si Paul n'avait pas accepté de souffrir, d'aller en prison, d'être lapidé, etc., on n'aurait rien du tout. Si moi, je n'accepte pas des fois mes petites souffrances, excusez-moi, de ne pas regarder mon émission télé parce qu'il faut que j'aille à l'étude biblique, c'est une toute petite souffrance. On peut l'enregistrer aujourd'hui. Et on pourra la regarder après. C'est génial. Je vous donne des trucs. Hein. Mais si je ne suis pas prêt à souffrir un petit peu, peut-être à cause de cela, d'autres ne bénéficieront pas de l'évangile. C'est ça qu'on oublie bien souvent. On pense à nous, on pense parce qu'on est fatigué, on pense parce que si ça, mais ça ne bénéficiera pas aux autres. Et peut-être le Seigneur nous fera le reproche un jour. Parce que si Paul avait dit non, Ben, je pense que Dieu n'aurait pas été vraiment d'accord. Parce qu'il l'a appelé, il l'avait préparé dès le sein de sa mère, comme vous, comme moi, pour faire quelque chose pour lui. Un jour, quand on sera devant Jésus-Christ, on ne remettra pas en question notre salut, on sera devant le tribunal et il dira ben, ce que tu as fait de bien et de mal dans ta vie de chrétien. Est-ce que tu as servi? Est-ce que tu m'as obéi? Ou alors tu as passé ta vie dans des futilités? On sera rouge, hein, je pense, de honte à ce moment-là. Et on aura des récompenses ou pas. Je ne sais pas ce que sont les récompenses. Ne sachant pas ce que c'est, il y en a qui vont dire, on s'en fiche. Moi, je suis plutôt prudent. Plutôt prudent. Et vaut mieux peut-être se dire que c'est très, très important si le Seigneur nous l'a promis. Dieu avait donc un plan pour Paul, qui était ministre de cet évangile, comme Dieu a un plan aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dieu veut se servir de vous, et s'il veut le faire, c'est qu'il sait que vous pouvez le faire. Ça, il faut aussi le penser. Si Dieu se plaît à vouloir vous faire servir, c'est qu'il sait que vous en êtes aussi capable. Il va nous aider, il va nous perfectionner, mais il sait aussi qu'on est capable de transmettre l'évangile, à condition de l'apprendre. Il veut tout simplement se servir de nous. On devrait être fiers. Non ? On n'est pas fiers quand on témoigne des fois. Hein. On est tout rouge parce qu'on se moque de nous, etc. Mais on devrait être fiers que Dieu, le grand Dieu là, se dise, moi, tout petit, là, Emmanuel, là, je vais me servir de toi. Ah, un vrai. Hey, c'est génial, non ? Non, ça ne vous parle pas. Hein. Mais c'est dommage. Non ? Pas fier dans le sens de l'orgueil, on est bien d'accord. Mais c'est quand même une fierté de pouvoir servir notre maître. Pour terminer, Paul se bat férocement pour défendre ce vrai évangile qui a bouleversé sa vie. C'est parce qu'il a été transformé, touché par l'évangile qu'il s'est mis au travail avec beaucoup de vigueur. Est-ce que l'évangile a vraiment changé ma vie? Ça, vous la posez la question dans votre cœur. Ou est-ce que nous vivons un peu comme avant de rencontrer Christ dans notre vie? Il y a des choses, des mécanismes qu'on continue. On continue à manger, évidemment, heureusement. Mais ça doit avoir bouleversé ma vie d'une manière ou d'une autre. Dans cet engagement que j'ai pris avec le Seigneur. Où sommes-nous de ceux qui abandonnent un petit peu, moyennement, beaucoup le vrai évangile parce que le monde est tellement attirant, parce que la facilité, ben, c'est tellement plus simple, la facilité. Hein. C'est ce que pose comme question à Paul aux Galates à l'époque. Peut-être qu'on peut se la poser aussi à nous. Ou alors, est-ce que nous sommes de ceux qui cherchent à apprendre, à mieux connaître, à vouloir servir le Seigneur pour pouvoir ensuite transmettre, défendre la saine doctrine contre ces faux docteurs qui rentrent de plus en plus dans l'Église? Si l'Église s'écroule à un moment, c'est aussi peut-être à cause de ma faute. Un pasteur ne peut rien faire tout seul si toute l'Église n'est plus d'accord avec lui. Il ne peut rien faire. Donc c'est à chacun d'entre nous de comprendre ma responsabilité et le travail que le Seigneur veut pour nous. Alors, étudions. J'aimerais des sourires. Méditons. Vous savez, méditer dans l'Ancien Testament, c'était ruminer. Vous avez déjà vu les vaches ? Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Et ça prend du temps. On peut la méditer durant la journée, même au travail. Hein. Bon, il y a des moments où il faut se concentrer, évidemment. Étudions, méditons et transmettons cet évangile parce qu'il peut conduire au salut. Et ne nous disons pas, oh, je vais témoigner à lui, mais de toute façon, ça ne va rien faire. Ben, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est déjà arrivé que des gens reprennent un traité, des années plus tard, le lisent et se convertissent. J'ai connu quelqu'un comme ça. Il s'est converti ce jour-là. Et il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est une dame, en fait, et elle sert aujourd'hui. Donc ne soyons pas défaitistes. Et je nous encourage, évidemment, à annoncer le vrai et unique évangile. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, l'évangile de grâce, qui seul sauve, évidemment. Et merci pour ces personnes qui nous ont croisés un jour dans notre vie, ou par le moyen que tu as utilisé pour nous convaincre à un moment de notre péché, de justice et de jugement. Merci pour cette approche que tu as fait à notre cœur, de le découvrir tel qu'il est vraiment, vraiment pécheur, perdu, loin de toi, Seigneur, et de nous avoir tendu ta grâce au travers de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas simplement rester à ce stade-là de sauver, mais nous voulons, comme demande la parole, grandir, apprendre à mieux te connaître, apprendre aussi à transmettre cette parole, et ça s'apprend. Ça se fait par la connaissance de ta parole, évidemment, et peut-être aussi par le courage, moins de timidité. Mais aide-nous dans ce domaine pour que nous puissions nous réjouir de voir peut-être dimanche après dimanche un collègue venir à l'église, entendre l'évangile, ou se convertir, pourquoi pas chez lui, parce que nous avons témoigné, parce que nous lui avons donné une Bible. Il y a tellement de joie dans le ciel pour une personne qui se convertit, et nous voudrions évidemment partager cette joie. Aide-nous, Seigneur, tu nous connais, nous sommes bien timides souvent. Donne-nous de la force et la joie aussi de faire cela. en Jésus-Christ. Amen.